Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Depuis 1901, chaque 10 décembre, jour anniversaire de la disparition d'Alfred Nobel, mort le 10 décembre 1896, le prix Nobel est remis aux lauréats pour leur réussite dans les domaines de la physique, de la chimie, de la médecine, de la littérature et de la paix. Mais qui était Alfred Nobel? Bien sûr, avant toute chose, un ingénieur, spécialiste des explosifs, inventeur de la dynamite, un passionné de science qui déposa près de 350 brevets. Mais on le sait moins, c'était aussi un grand amateur de poésie et il se rêvait écrivain. Il nous a laissé des poèmes en anglais et deux romans inachevés. Et bien sûr, il fut ce grand philanthrope que Victor Hugo surnommait le vagabond millionnaire. Comment, de marchand d'armes, Nobel en arriva-t-il à devenir bienfaiteur de l'humanité en créant un prix à son nom? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode en deux parties. Première partie, un arsenal pour berceau. Le 3 septembre 1864, une gigantesque déflagration retentit dans les faubourgs de Stockholm. Le souffle et les vibrations de l'explosion se font sentir jusqu'à des kilomètres à la ronde. L'usine de la famille Nobel vient de voler en éclats. Et c'est une tragédie. 5 personnes sont mortes, ensevelies sous les décombres, dont Emil Nobel, le plus jeune des frères Nobel. Il n'avait que 21 ans. Ce n'est pas la première tragédie dont sont victimes les Nobel. Leur maison et leur chantier ont déjà été victimes en 1832 du terrible incendie qui avait ravagé tout un quartier de Stockholm. Mais l'accident survenu aujourd'hui est bien plus grave, parce que les Nobel en sont responsables. Leur explosif a trop bien fonctionné. Cette satanée nitroglycérine sur laquelle travaille Alfred est bien trop dangereuse. Après cette nouvelle explosion, la plus grave mais pas la première, plus personne ne va vouloir des usines Nobel. Alfred se demande bien où il va pouvoir poursuivre ses travaux. Revenons une trentaine d'années en arrière. Alfred Nobel naît le 21 octobre 1833 à Stockholm, en Suède. Il est le troisième des 4 fils d'Emmanuel Nobel et Henriette Alzel. Depuis qu'il est tout petit, il entend parler armement. Son père fabrique des mines, une industrie plutôt mal vue en Suède, pays pacifiste. Alors, quand la maison familiale et le chantier des Nobel sont détruits par un incendie et que les dettes commencent à s'accumuler, Emmanuel Nobel décide de partir en Russie. En 1838, il s'installe avec sa famille à Saint-Pétersbourg. Alfred est différent de ses deux frères aînés, non pas tant physiquement. Il est de petite taille, avec des grands yeux bleus, un regard rêveur. Non, pas tant physiquement qu'intellectuellement. Il manifeste très tôt une intelligence exceptionnelle. Et contrairement à ses frères, devenus ingénieurs mécaniciens sur le tas, Alfred va avoir droit à un précepteur. À 16 ans, il est apprenti chez son père. À 17 ans, il est envoyé en Amérique pour y étudier la chimie et y travailler auprès du célèbre ingénieur suédois John Ericsson, qui s'occupe alors de construction navale. 4 ans plus tard, en 1854, quand Alfred rentre en Russie, son pays d'adoption est en pleine guerre contre la France et l'Angleterre. C'est la guerre de Crimée. La sécurité de la capitale russe dépend alors largement de la production des usines Nobel. Les mines explosives sous-marines inventées par Emmanuel Nobel et que l'on appelle torpilles sont utilisées pour la toute première fois par la marine russe lors de cette guerre de Crimée. Mais quand la guerre prend fin, il faut trouver d'autres débouchés. Emmanuel Nobel entreprend alors de construire des bateaux à vapeur pour la Volga. Mais c'est un échec, sa firme fait faillite. Il faut aller chercher fortune ailleurs, d'abord dans son propre pays, la Suède, où les Nobel élèvent une usine d'explosifs et où le jeune Alfred Nobel tente d'exploiter un brevet pour un gazomètre, nouvel échec. Où donc en Europe trouver alors des capitaux, de l'enthousiasme, des perspectives? Eh bien en France, pardi, dont le nouvel empereur est, paraît-il, un visionnaire. Alfred se rend donc à Paris. Les financiers qu'il rencontre sont rétifs, mais il parvient à être présenté à l'empereur Napoléon III, qui montre autant d'intérêt pour les questions d'ordre technique que pour les questions d'ordre militaire et joue volontiers les mécènes internationaux. À sa demande, les Pereire, hommes d'affaires et banquiers proches du régime, avancent 100 000 francs à la famille Nobel pour la construction d'une usine. De retour chez lui, Alfred Nobel retrouve aussitôt son atelier. Il veut travailler sur la nitroglycérine, un explosif qui a été inventé une vingtaine d'années plus tôt par l'Italien Ascanio Sobrero. Alors que pendant des siècles, la poudre à canon est restée le seul explosif puissant, la pyroglycérine, quoique très prometteuse, présente le grave inconvénient d'être hypersensible aux chocs mécaniques et thermiques. Elle est instable, très dangereuse à utiliser et en outre très nocive pour la santé. Alfred Nobel travaille donc à la sécuriser. Il met au point un système d'allumage révolutionnaire utilisant une amorce et une petite charge explosive de poudre. Il fait breveter son invention le 15 juillet 1864. Il a 32 ans. On est alors en pleine révolution industrielle et l'on a grand besoin d'explosifs pour mener à bien les travaux titanesques qui lui sont liés, notamment dans les mines et la construction de tunnels. Mais parfois, ces matières dangereuses explosent accidentellement. Et c'est justement ce qui s'est passé le 3 septembre 1864 dans l'explosion qui a causé la mort d'Émile Nobel. Alfred avait pourtant déposé son brevet 2 mois plus tôt. Il était très sûr de lui. Décidément, à l'évidence, quelque chose n'est pas encore au point. Taraudé par la disparition de son petit frère, il fait de la sécurité de l'explosif sa nouvelle obsession. Il n'y a plus qu'à se remettre au travail. Mais où donc ? Car à la suite de cet accident, le gouvernement suédois refuse au Nobel l'autorisation de construire une nouvelle usine près de Stockholm, où se trouvait la première. L'opinion publique ne veut plus entendre parler de cette matière dangereuse. Alfred trouve la parade. Puisqu'il n'a plus le droit de construire un atelier sur le sol suédois, il va travailler sur l'eau. Il achète une vieille carcasse de bateau sur le lac Maelar. Il l'ancre loin du rivage et y installe son atelier d'expérimentation. Il se déplace régulièrement d'un point à l'autre du lac, car les riverains finissent toujours par se plaindre de la présence de son bateau laboratoire. Il n'y a d'ailleurs pas qu'en Suède que l'on s'inquiète de ses expériences et de ses produits. À l'étranger aussi, les explosions intempestives de l'huile de M. Nobel rendent plutôt nerveux. Même en Amérique, où l'on mène de grands travaux qui requièrent des quantités considérables d'explosifs, on envisage d'interdire l'importation et l'emploi du liquide suédois. Néanmoins, des financiers et des spéculateurs, conscients du potentiel de cette invention, réinvestissent dans l'affaire de Nobel, ce qui va lui permettre de se lancer à nouveau dans des recherches approfondies pour trouver un explosif solide, aussi efficace que le liquide, mais moins instable. En 1867, alors qu'il procède à ses expériences quotidiennes, Alfred renverse accidentellement un peu de nitroglycérine, mais à sa grande surprise, elle n'explose pas. Que s'est-il passé? Elle est tombée sur une sorte de roche poreuse qu'on appelle le kieselgour, une variété de silice. Adjoint à cette terre qui l'absorbe, le produit s'est transformé en un mortier solide et son efficacité est encore plus grande, tandis que le danger de la manipulation est proportionnellement insignifiant. Avec 25% de cet additif, la nitroglycérine se transforme en une sorte de mastic et devient très sûre d'emploi. Il faut un détonateur pour qu'elle explose et l'on va pouvoir désormais la conditionner sous forme de tube en carton. Alfred Nobel vient de mettre au point un explosif 3 fois plus puissant que la poudre. Il le baptise du mot qui en grec signifie « puissance » et ce mot, c'est « dynamite ». La dynamite est née. Mais elle commence par faire parler d'elle sous forme d'effroyables catastrophes. La série noire commence à New York le 5 novembre 1865. Un voyageur de commerce allemand laisse en dépôt dans un hôtel une bonbonne de 5 kg de nitroglycérine conservée dans une caisse. En son absence, la caisse est bousculée, remuée, elle sert de siège et de support pour cirer les chaussures. Jusqu'au moment où le portier de l'hôtel voit s'en échapper une fumée jaune. À peine a-t-il le temps de porter la caisse dehors, au beau milieu de la rue, qu'une formidable explosion crée un trou béant dans la chaussée et fait exploser toutes les vitres des fenêtres alentour. Quelques mois plus tard, un chargement de 300 barils de dynamite à destination du Pérou explose au large de Panama. Le bateau est littéralement pulvérisé. 47 hommes y trouvent la mort. Et les catastrophes se suivent en cascade. 14 personnes sont tuées dans l'explosion d'un entrepôt à San Francisco. Puis c'est en Australie que survient un nouveau drame. Et enfin, en mai 1866, la première fabrique allemande Nobel à Krümmel, près de Hambourg, saute à son tour. Ces catastrophes enchaînent, déclenchent partout une véritable panique. À New York, où il se trouve pour un procès lié à l'un de ses brevets, Nobel est très mal accueilli, au point d'avoir du mal à se trouver une chambre d'hôtel. Est-on bien sûr qu'il ne transporte pas de la dynamite sur lui? Ses agents commerciaux affolés lui annoncent les annulations de commandes. Plus personne ne veut de dynamite. La jeune entreprise Nobel connaît de graves problèmes financiers. Son existence même est menacée. Et c'est finalement le marché américain qui va sauver Nobel. C'est un marché colossal, car le chemin de fer a un besoin énorme d'explosifs. Le paradoxe, c'est que toutes les catastrophes auxquelles sont liées les débuts de la dynamite, en particulier l'explosion du bateau au Pérou, ont attiré l'attention sur le produit de Nobel. C'est finalement sa dangerosité qui fait sa notoriété. Dans tous les pays du monde, on se dispute à présent le brevet. Et dans les années qui suivent, Alfred voyage dans le monde entier, installe partout des usines de production d'explosifs liquides et de dynamite, des sociétés dont il est en général le principal actionnaire. En 1880, il rassemble l'ensemble de ces sociétés en 2 grands groupes. La Société Centrale de Dynamite, qui réunit à Paris la majorité des actions des fabriques Nobel de France, de Suède, d'Italie, d'Espagne et d'Amérique du Sud, et la Nobel Dynamic Trust Company, organisme chapeautant les entreprises anglaises et allemandes. C'est de Paris que partent dans le monde entier toutes les informations sur les innovations techniques. Et justement, l'une d'elles va être réalisée à la suite d'un incident fortuit, comme en 1867 avec le Kieselgour. Ce jour-là, s'étant blessé au doigt, Nobel se badigeonne d'une fine couche de collodion, un mélange de cellulose, d'éther et d'alcool qui crée sur la plaie une couche protectrice et désinfectante. Au milieu de la nuit, n'arrivant pas à dormir, il se met à sa table de travail. Sa douleur au doigt lui inspire un rapprochement entre collodion et nitroglycérine. Et s'il mélangeait les deux? Il fait l'expérience. Le collodion se dissout dans la nitroglycérine et le mélange donne une sorte de masse gélatineuse. Ce mélange, cette gélatine, c'est l'explosif le plus violent jamais mis au point. Il va rendre Alfred Nobel encore plus riche. Mais à quoi cela lui sert-il, lui qui ne sait que travailler ?
Je suis un citoyen du monde. Ma patrie est là où je travaille et je travaille partout.
Mais depuis 1871, il vit à Paris, retiré dans un hôtel particulier au 53 avenue de Malakoff dans le 16e arrondissement. S'il voyage beaucoup, il sort très peu, il n'aime pas les mondanités. À 40 ans, Alfred se sent vieux et seul. Ses congénères lui font un peu peur, il est méfiant. Il craint toujours que l'on ne s'intéresse à lui que pour lui demander quelque chose. Il est timide, alors l'ironie lui tient lieu de cuirasse, ce qui n'est pas fait pour le rendre sympathique. Pourtant, ce misanthrope est un sentimental. Il souffre de vivre seul et sent bien que toutes ses richesses accumulées devraient être partagées avec quelqu'un. Alors, en 1876, il se lance, il fait passer une annonce dans un journal viennois.
Monsieur plus très jeune, très riche et très instruit, vivant à Paris, cherche dame même âge, parlant plusieurs langues, qui lui servirait de secrétaire et dirigerait son intérieur.
À 43 ans, le génial chimiste va-t-il enfin rencontrer l'amour ? Va-t-il pouvoir se consacrer à autre chose qu'à ses explosifs ? Eh bien, c'est ce que vous saurez en écoutant la seconde partie de cet épisode consacré à Alfred Nobel, le vagabond millionnaire.